Bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Aujourd'hui, on fait une vraie plongée dans un sujet qui fait mal. On rassemble des éléments assez cruciaux, notamment l'annonce de Gary Ilies sur le blog Search Central, les derniers changelogs officiels de Shopify, et puis on a aussi les données de CR Interactive de janvier 2025 et les parts de marché de StatCounter d'avril 2026.
Ouais, un beau programme.
C'est ça. La mission de notre échange aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre pourquoi l'infrastructure serveur et la gestion du budget de crawl, c'est devenu le nouveau nerf de la guerre du SEO en e-commerce en ce début 2026.
C'est clair.
Pour lancer un peu la réflexion, ce que je vois en audit tous les jours en ce moment, c'est une vraie hémorragie silencieuse du trafic organique. T'as une boutique qui perd genre 30% de ses revenus SEO, pas à cause d'un concurrent ou d'un mauvais produit, mais juste parce qu'un robot de Google s'est fatigué d'attendre le chargement d'un widget d'avis client.
C'est une réalité frappante et surtout, l'impact sur le business model, il est d'une brutalité mathématique. Enfin, si on pose le cadre purement financier, une boutique qui voit son trafic naturel baisser, c'est une boutique qui doit compenser.
Ouais, pour maintenir le chiffre d'affaires, quoi.
Exactement. La réaction automatique des marchands, c'est d'injecter beaucoup plus de budget sur les canaux payants, que ce soit du Google Ads, du Meta Ads, peu importe. Du coup, le coût d'acquisition client, le fameux CAC, il grimpe en flèche.
Et ça rogne la marge.
Mais complètement. Au bout de la chaîne, c'est la marge nette qui encaisse tout le choc. Et le pire, c'est que le compte de résultats se dégrade, alors que, à l'œil nu, le trafic global n'a pas forcément l'air de bouger.
Ouais, c'est le piège. Mais du coup, avant d'arriver aux solutions, faut vraiment décortiquer la mécanique. Pourquoi les règles du jeu ont changé si violemment ces derniers temps?
Faut regarder du côté de Google.
Voilà. Fin mars 2026, Gary Ilies confirme sur le blog Search Central un truc énorme. La limite HTML par URL pour Googlebot a été divisée par 7,5.
Ouais, le fameux passage de 15 mégaoctets à 2 mégaoctets.
C'est ça. Tout ce qui dépasse est purement et simplement ignoré. Mais je vais me faire l'avocat du diable deux secondes. 2 mégaoctets, enfin on est en 2026, on stream de la 4K sur nos téléphones dans le métro. Pourquoi Google, avec sa puissance de calcul phénoménale, panique pour un minuscule fichier texte de 2 mégaoctets?
En fait, la réponse, elle tient en un seul nom. C'est l'échelle. L'échelle de traitement. Faut pas réfléchir avec notre vision d'humain sur un navigateur.
Ouais, on charge une page à la fois.
Voilà. Eux, c'est une infrastructure qui doit crawler, analyser et indexer des dizaines de milliards d'URL chaque jour. Traiter 15 mégaoctets de code HTML pur pour une seule page, ça demandait des ressources mémoire colossales.
Donc, c'est juste une rationalisation des coûts de leur propre serveur, hein.
Carrément. C'est purement financier pour eux.
D'accord, l'échelle est gargantuesque, je veux bien. Mais attends, comment une simple page produit, qui est censée contenir juste du texte et quelques balises, peut atteindre une taille de 2 mégas de code source? C'est énorme pour du texte.
Eh ben, c'est là qu'on rentre dans les mauvaises pratiques de développement. Et surtout, un truc qu'on voit tout le temps en audit, l'usage du Base64.
Ah oui, le cauchemar.
Au lieu d'intégrer une image via un lien classique, t'as certains développeurs, ou même des thèmes e-commerce par défaut, qui encodent l'image directement dans le code HTML sous forme de texte.
C'est comme si tu prenais une photo haute définition et que tu la traduisais avec des millions de lettres de l'alphabet.
C'est exactement ça. Ça te crée un bloc de texte monstrueux. Et si ce bloc énorme, il est au beau milieu de ta page, il sature direct la limite des 2 mégas.
Et la conséquence, elle est...
La conséquence, elle est redoutable. Googlebot télécharge les deux premiers mégaoctets, il arrive à la limite, et paf, il coupe, la fin de la page n'existe tout simplement pas pour lui.
Ah ouais, donc si tes balises sémantiques importantes, genre le schema.org qui décrit ton produit, ton prix, tes avis, ou même ta balise canonical, si elles sont tout en bas du code...
Elles passent à la trappe.
T'es plus facé. Google considère que ta page est non optimisée ou pire, incomplète.
C'est le coup près net. Et d'ailleurs, cette contrainte, elle s'accompagne d'une autre règle que Gary Ilies a bien soulignée. Pour allouer le budget de crawl, c'est désormais la latence de la base de données qui prime et plus la taille du site.
Ah, ce qui explique un truc qu'on a vu passer. La mort du crawl rate limiter tool.
Exactement. Ce vieil outil de la Search Console qui permettait de dire à Google de ralentir un peu la cadence. Enterré depuis novembre 2023.
Fini. Impossible de forcer la main à Googlebot. S'il trouve que ton serveur met trop de temps à répondre, il dégage.
C'est le principe de précaution. Il veut pas faire crasher ta boutique, donc il s'en va. Et c'est justement sur cette question de génération de pages que le cas de Shopify devient fascinant en ce moment.
Ah bah, parlons-en du séisme Shopify. Les fameux filtres. Le changelog officiel nous montre un breaking change sur les URL de filtres en deux temps. Le 16 mars 2026, premier coup dur.
Le passage au JIDE. Ouais.
Voilà. Abandon des URL lisibles pour les filtres, on passe à un format complètement opaque. Au lieu d'avoir un paramètre clair, genre couleur-bleu, t'as une URL incompréhensible avec JIDE, Shopify, des chiffres partout.
Un truc qui n'a absolument aucune valeur sémantique pour l'algo. Zéro.
Mais la vraie catastrophe, le truc qui a fait saigner les boutiques, c'est le 24 avril 2026. Fini le fallback. Les anciennes URL textuelles, elles n'appliquent plus les filtres du tout.
Ouais, mais le pire, c'est qu'elles renvoient toujours un code de 100, ok?
C'est ça. Le serveur dit que tout va bien. C'est ce qu'on appelle un soft 404 massif.
Pour bien faire comprendre l'impact business, imagine un supermarché géant. Tu marches dans une allée, il y a un panneau qui dit « chemise bleue », tu rentres dans l'allée, et là, l'étagère est vide. Ou alors, il y a absolument tous les produits du magasin balancés en vrac.
C'est une perte de temps totale. L'allée est ouverte, la lumière est allumée, mais il n'y a pas ce que tu cherches.
Bah pour Googlebot, c'est pareil. Il parcourt des milliers de ces allées vides en pensant trouver des chemises bleues. Il crame tout son temps d'exploration, son budget de crawl, sur des pages mortes.
Et pendant ce temps-là?
Pendant ce temps-là, tes vrais nouveaux produits, ta nouvelle collection, qui pourraient te rapporter du cash, bah Google les découvre même pas.
Du coup, chute des positions sur la longue traîne et perte de revenus directs immédiates. Et le volume de ces pages poubelles, c'est vertigineux à cause de l'architecture même de Shopify.
À la fameuse combinatoire?
Ouais. Faisons le calcul vite fait. Un cas d'audit classique. T'as une collection, tu mets 5 tags, 3 options de tri, 4 filtres, 8 variantes de couleurs. Juste avec ça, tu génères potentiellement 480 URL uniques.
480 URL pour une seule catégorie. Tu multiplies ça par 30 ou 40 collections, ton serveur il doit calculer des dizaines de milliers d'URL alors que dans ton entrepôt, t'as peut-être que 300 produits physiques.
C'est délirant. La charge de calcul pour la base de données explose. Mais tu vois, là, on touche à un conflit majeur sur le terrain. Le serveur souffre, ok. Mais d'un autre côté, on peut pas ignorer le rôle des apps tierces.
Ah, les fameuses apps.
Bah oui. J'ai des clients, ils utilisent JudgeMe pour les avis, Lux pour les photos, Klaviyo. Ces apps injectent un JavaScript super lourd. Ça plombe le TTFB, le temps de réponse initial du serveur. L'app de JudgeMe, c'est genre 78 kilooctets.js compressé.
Ouais, et les benchmarks 2026 sont clairs. Chaque 100 millisecondes de TTFB en plus, c'est 10% de volume de crawl en moins.
Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment problématique, sur le terrain, la prof sociale, ça fait convertir. Je peux pas dire à mon client, hey, désactive tes avis clients pour faire plaisir à Googlebot. Ça tue son chiffre d'affaires. Comment on équilibre ça?
C'est le vrai casse-tête de 2026. Faut équilibrer l'acquisition, qui veut de la vitesse, et la conversion, qui demande des abysses. Et ce qui rend la tempête parfaite en ce moment, c'est un troisième acteur.
Les bots IA.
L'invasion totale. Les GPT bots, Claude bots, Perplexity bots, ils sont ultra agressifs. Ils parcourent le web pour aspirer de la donnée et entraîner leur modèle de langage. Et ils exécutent même pas le JavaScript.
Ouais, dans les logs, on voit qu'ils peuvent bouffer 30 à 40% de la bande passante d'une boutique.
C'est énorme. C'est l'effet cascade, ou le back-off.
C'est comme si ton resto était envahi par des gens qui squattent les tables, mais commandent rien. La cuisine est débordée, et quand le vrai client payant arrive, Googlebot y voit la file d'attente et il se casse.
C'est la métaphore parfaite. Le serveur sature à cause des bots IA, la latence explose, Googlebot applique la doctrine d'Ili, et ton acquisition organique s'effondre.
Bon, face à ce diagnostic un peu apocalyptique, on fait quoi, Sam ? Faut pas paniquer, il y a un plan d'action terrain en 3 niveaux.
Ouais, un truc assez chirurgical.
Le niveau 1, on le fait dès la première semaine. C'est l'optimisation du fameux fichier robots.txt.liquid sur Shopify. C'est ouvert depuis juin 2021 et pourtant presque personne s'en sert.
Bah, la configuration par défaut est une passoire absolue.
C'est ça. Donc, on bloque les filtres, combinatoires, les tags, les recherches internes. Et surtout, la subtilité, c'est la gestion des bots IA. Faut bloquer les bots d'entraînement, ceux qui font que pomper.
GPT bot, Claude bot, dehors.
Par contre, tu laisses absolument passer les bots de recherche IA, ceux qui citent leurs sources et envoient du trafic. Le résultat sur le terrain, en quelques jours, tu récupères 30 à 50% de budget de crawl.
C'est immédiat. Le serveur respire, Googlebot revient. Mais bon, ça c'est pour colmater la fuite. Le niveau 2, c'est le nettoyage de l'historique. Ça prend 2 à 4 semaines.
Ouais, parce que bloquer l'accès, ça efface pas ce que Google a déjà mangé les mois précédents.
Exact. Faut consolider avec des canonicals super propres. Mm-hmm. Et puis, utiliser la balise noindex de manière très stratégique pour désindexer les fameuses URL de filtre JID qui sont restées bloquées dans l'index. Mm-hmm. Et on nettoie le sitemap.
Une fois que c'est sain, On attaque le niveau 3. Et là, on rentre dans l'architecture profonde. L'intégration du JSON-LD Product, mais avec un rendu côté serveur, le SSR.
Hyper important en 2026.
Parce que les bots IA n'exécutent pas le JavaScript. Donc si tes avis clients sont en JS, les moteurs de recherche IA, comme ChatGPT Search, voient une page vide.
Et ignorer ChatGPT Search, c'est suicidaire. Surtout quand on regarde l'étude Sierre Interactive de janvier 2025.
Ah oui, les chiffres sont fous.
87% des citations de ChatGPT Search matchent directement avec l'index de Bing. Et en France, selon StatCounter en avril 2026, Bing c'est 5,39% du marché. C'est pas négligeable du tout.
Si t'as pas de rendu côté serveur, tu disparais complètement de l'écosystème de réponse IA.
C'est clair.
Mais du coup, côté ROI, ce chantier de 8 semaines, ça demande des devs, de la ressource technique. À partir de quel volume de catalogue un marchand doit se dire « Ok, c'est indispensable pour protéger ma marge SEO ».
Honnêtement, le seuil de rentabilité arrive super vite. Dès que tu dépasses les 1000 références.
1000 références ?
Ah oui, c'est vite atteint.
Très vite.
Avec 1000 produits, la combinatoire des filtres plus les apps de conversion, la saturation serveur est mathématique. À ce stade, le coût de ton inaction dépasse largement ce que va te coûter le dev.
Ouais, la perte de CA coûte plus cher que le dev.
Exactement. Le SEO e-commerce aujourd'hui, c'est plus juste chercher des mots-clés. C'est de l'infrastructure pure et dure, du contrôle de serveur. Si tu gères pas la porte d'entrée de ton site, les bots ruinent ta perf commerciale.
En fait, ça soulève une question presque philosophique pour la suite. Si 40% de ta bande passante est siphonnée par des bots IA qui achètent rien, combien de temps on va accepter d'absorber ce coût serveur ? On va peut-être vers un modèle où les e-commerçants vont faire payer un péage aux boîtes d'IA pour crawler leur catalogue, non ?
Ah, c'est une excellente réflexion. L'accès à la donnée et la puissance d'hébergement, c'est plus gratuit du tout. Va bien falloir que quelqu'un paie la facture à la fin.
C'est clair. Va falloir surveiller ces logs dès demain matin.
Carrément. Bon, écoute, faut que je file. J'ai justement une grosse analyse de logs qui m'attend sur un de mes dossiers. On se reparle de cette histoire d'optimisation demain.
Parfait. Bon courage pour tes logs. À plus.